السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous poursuivons notre série relative à l'étude des paraboles du noble Coran. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui contient la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala contenant la lumière, la guidée et la meilleure des exhortations. Cette parole, celui qui la médite pour la prendre en tant que guide dans sa vie, obtiendra le bonheur dans ce bas monde et la félicité dans l'au-delà. Aussi, quel meilleur moment que le mois de Ramadan, le mois durant lequel le Coran a été révélé, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, lire sa parole et la méditer. Et parmi les meilleurs passages du Coran qui amènent à la compréhension de ce qu'Allah azawajal veut du serviteur, le pousse à le connaître, à l'unifier et à mieux l'adorer, il y a Al-Amthal. Il y a les paraboles du Coran. Et les buts des paraboles du Coran peuvent être résumés en quatre points principaux. Premièrement, la distinction entre les cœurs croyants, saints, et les cœurs corrompus, perturbés. Le croyant, lorsqu'il entend la parabole, il sait que ça vient de son Seigneur, ça augmente sa certitude. Quant à l'hypocrite, lorsque la parabole vient, il s'en détourne et il dit « Qu'a donc voulu Allah par cette parabole ?» Deuxièmement, c'est pour rapprocher la chose éloignée à l'esprit, comme si la personne la voyait devant elle. Ça met aussi en évidence la valeur de cette chose absente. Troisièmement, c'est pour nous encourager aux nobles actions et aux bonnes choses, tout en nous éloignant des péchés et des mauvaises œuvres. Enfin, la parabole est mentionnée pour nous amener à la réflexion, à méditer, à nous rappeler et à tirer des leçons. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié la première parabole relative aux hypocrites. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons étudier la deuxième parabole, toujours relative aux hypocrites, dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les kafirines. Cette parabole nous parle ici des hypocrites. Après qu'Allah azawajal nous ait mentionné un mathal nari, il nous mentionne ici un mathal ma'i. Il nous a mentionné une parabole relative au feu et ici une parabole relative à l'eau. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous explique et nous détaille cette parabole. Awkasayyibin. As-sayyib, c'est la pluie qui descend avec l'averse ou qui descend en grande quantité. Al-Sayyib, c'est la pluie qui descend en grande quantité. Ou ka sayyibin min as-sama fihi dhulumat, chargé de ténèbres. Il y a des ténèbres et elles ont été mentionnées au pluriel. Il y a les ténèbres de la nuit, il y a les ténèbres des nuages, il y a les ténèbres de la pluie et d'autres ténèbres. Allahu a'lam, leur nombre. Ensuite, on nous dit wa ra'dun. Ar-ra'd, c'est le tonnerre bruyant et effrayant. Wa barq, al-barq, ce sont les éclairs terrorisants qui illuminent. Voici leur situation. Ça les effraie tellement qu'ils en arrivent à mettre leurs doigts dans leurs oreilles pour ne rien entendre et à fermer les yeux pour éviter de voir cela. Voici donc une autre parabole pour nous parler des hypocrites. Ces gens-là perçoivent la vérité tantôt et s'en détournent tantôt. Tantôt ils penchent vers les croyants, les gens véridiques, et tantôt ils s'en éloignent. Ils sont constamment dans le doute, à l'image d'un groupe, en chemin ou en voyage, qui subitement est touché par une averse, une forte pluie qui s'écoule sur eux, les trempant. Ils se retrouvent dans les ténèbres, superposés les uns au-dessus des autres. Ajoutez à cela le tonnerre qui gronde fortement, et les éclairs qui s'abattent sur eux, risquant de les brûler à chaque instant. Et tout ce qui découle de cette situation, la peur, le fait d'être trempé, l'ouïe qui est perturbée, la peur de la mort, la peur d'être brûlé, d'être foudroyé. En plus de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a dans son contrôle, dans sa maîtrise. Ils ne peuvent le fuir. Ils ne sauraient le rendre incapable face à eux. Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention ici sur plusieurs points. L'eau, comme vous le savez à la base, c'est la cause de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager avec le Coran. Mais quel est l'exemple des hypocrites face à l'écoute du Coran, face aux ordres, face aux interdits, face aux menaces et aux promesses? Allah Azza wa Jal nous a donné l'exemple des hypocrites face à la révélation et à l'accueil de la guidée. Il nous a donné cet exemple-là. Il y a une pluie qui est remplie de bien. Mais des fois, il y a des choses qui viennent avec cette pluie, comme l'orage, l'éclair, le tonnerre. Et eux, au lieu de prendre ce qui est bénéfique, ce qui fait vivre les gens, ce qui fait vivre la terre, ce qui fait vivre les bestiaux, eh bien, eux vont se concentrer sur les orages, les éclairs et le tonnerre. Ils ne vont donc rien prendre comme bénéfice, mais ils vont tous subir comme nuisance. N'est-ce pas que la pluie, elle vient porteuse de bénédictions, mais aussi il peut y avoir des effets dévastateurs. Eh bien, les hypocrites, eux, vont en tirer que les effets dévastateurs. Tout comme lorsque la révélation leur est venue et le message du Coran, le message de l'islam leur est venu, ils n'en ont pas pris les bénéfices. Donc, je reprends. Cet exemple avec l'eau est l'exemple des hypocrites lorsqu'ils écoutent le Coran, ses ordres, ses interdits, ses promesses, ses menaces. Ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager. Naam. Il est venu avec quoi? Il est venu avec la lumière, il est venu avec la vie, il est venu avec tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans ce bas monde et l'au-delà. Mais ces gens-là, au lieu de tirer profit de la présence du prophète alayhi salatu wassalam et de la science, de la rahma qu'Allah a envoyée, ces derniers n'ont pas saisi cette opportunité, n'ont pas saisi cette occasion. Ils sont donc à l'image de ceux qui, lorsqu'il y a la pluie, ne reçoivent que les nuisances, les ténèbres, le tonnerre, les éclairs. Ils ont complètement manqué le but recherché de la pluie, le but recherché de la révélation, à savoir la guider, la piété, le paradis, le pardon. Cette pluie apporte la vie par la grâce d'Allah Azza wa Jal aux gens, aux pays, aux terres, aux cultures, aux animaux. Mais ces gens-là ont manqué la vraie vie. Ils ont manqué le but principal de ce bas monde. Alors qu'autre que les croyants profitent pleinement de cette vie, tout en se restreignant face à ce qui leur est nocif et dommageable. Ils sont tellement ignorants, tellement égarés, qu'ils se sont restreints à ce qui est nocif, à savoir les ténèbres, le tonnerre, les éclairs et tout ce qui découle de ça. Leurs utilités, leurs besoins sont immobilisés, tout comme le voyageur lorsque la pluie s'abat sur lui. Une autre image qu'on veut nous faire comprendre, c'est qu'ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. L'hypocrite, de par la faiblesse de sa clairvoyance, de par la faiblesse de la lumière qui l'entoure, parce qu'elle n'a pas pénétré son cœur, lorsqu'il entend le Coran, et lorsqu'il entend les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, il ne voit pas le bénéfice, il ne voit pas la finalité louable, le paradis éternel, la grâce d'Allah et son pardon. Mais il ne voit que les difficultés qui entourent le paradis, que les épreuves qui entourent le paradis. Il ne perçoit pas le paradis. Il n'a pas le désir de vrai pour ce paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Huffatil janna bil makari » Le paradis était entouré des choses que l'âme n'aime pas. Donc ils ont oublié de travailler pour l'au-delà. Ils ont oublié de travailler pour ce paradis. Alors que le savant, alors que le croyant, le clairvoyant, le pieux, lui, il craint Allah parce qu'il ne veut pas sacrifier un bas monde, un paradis éternel pour un bas monde éphémère. Il regarde loin, il regarde la finalité. C'est pour cela qu'il endure pour jeûner, il endure pour surveiller sa langue, il endure, il est constant dans la préservation des prières à la mosquée, il est constant dans son jeûne, dans sa zakat, dans son pèlerinage, dans la bienfaisance envers ses parents, dans ses responsabilités familiales, dans son voisinage, parce qu'il espère la récompense chez Allah, parce qu'il voit loin, il pense au paradis, au pardon d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque c'est le pèlerinage, il ne pense pas qu'aux dépenses et à la difficulté, mais il pense au pardon d'Allah. Il pense au retour de ce voyage lavé de tous ses péchés à l'image d'un nouveau-né. Alors que l'hypocrite, lui, lorsqu'il entend le Coran et qu'il entend le rappel du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Mais c'est, tout est haram, c'est difficile, je dois dépenser mon argent, je dois me lever tôt. » Je dois arrêter ce que j'aime, je dois arrêter ce à quoi je suis habitué, je dois arrêter l'argent qui est haram. Ça, c'est comme cela qu'interprétaient les hypocrites les textes. Et si on prend l'exemple du pèlerinage, c'est à l'image d'un homme qui voit le pèlerinage comme une séparation de ses parents, de son épouse, de ses enfants, de son pays, de son travail, de son repos. Il voit le pèlerinage comme un voyage difficile, l'avion, des heures de déplacement, des dépenses, de la fatigue, de la marche, le fait de ne pas avoir ses habitudes. Il regarde que cela. Il ne voit pas qu'il se soumet à Allah, qu'il accomplit un pilier, qu'il aura le délice de la foi. Naam, il aura les meilleures compagnies. Il ne voit pas que pour chaque pas, on va lui pardonner un péché, l'élever d'un degré. Lui donner une récompense jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Il ne voit pas que c'est le voyage de sa vie. Ces gens-là agissent comme agissaient avant les hypocrites. il se contente de se concentrer sur ceci est interdit, ceci est une menace, cela je ne pourrai plus le faire, ceci est difficile. Ils sont comme Adi ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, à l'image d'un bébé qu'on veut sevrer du sein de sa mère. Il est habitué, il aime cela. Et le sevrage est une chose des plus difficiles pour l'enfant. Malgré cela, quelle est la finalité? Il va grandir, il oubliera et il sera équilibré. Mais si on ne veut pas avoir à subir ce court passage de sevrage face au mal, eh bien on aura à supporter et à subir un temps indéterminé les conséquences de nos actes. L'intelligent, le pieux, est donc celui qui perçoit la vérité et la met en pratique avec de bonnes œuvres. Et il ne regarde pas que la difficulté, mais il regarde ce qu'il y a derrière la pluie comme bénéfice pour l'agriculture, pour le pays, pour les bestiaux, et ainsi de suite. Il regarde ce qu'il y a derrière l'éclair, derrière le tonnerre, comme bénéfice et comme bien. Il sait que c'est la vie. Il sait que c'est la vie. Donc voici ici une belle parabole à tous ceux qui ratent le but et l'objectif. En se concentrant sur l'apparence, la difficulté, et en restant dans le problème, sans en tirer les leçons et aller chercher le nectar et le joyau de la chose présentée, en voyant plus loin que le bout de son nez. Allah subhanahu wa ta'ala finit en nous disant « Wallahu muhitum bil kafiri » Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est caché. Rien ne peut se perdre auprès de lui. Il nous embrasse de son savoir, de son omnipotence, de son contrôle, de sa vue, de son ouïe. Rien ne peut lui échapper, ni le temps, ni les endroits, ni les sons. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin. C'est le premier, il n'y avait rien avant lui. C'est le dernier, rien ne sera après lui. Aucun moment ne lui échappe. Wa al-zahir wa al-batin. Il est au-dessus de tout. Rien n'est au-dessus de lui. Tabaraka wa ta'ala. Wal-batin, rien n'est sous lui. Rien n'est plus proche que lui. Il embrasse de son savoir l'ensemble des endroits. Allah subhanahu wa ta'ala ici adresse la plus lourde des menaces. Si Allah azza wa jal embrasse de son savoir et de son omnipotence celui qui est dans la mécréance, ça veut dire que rien ne lui échappe. Aucune parole, aucune action, aucun état du cœur, aucun silence. Il a donc enregistré toutes leurs œuvres et en conséquence, ils seront rétribués. En conséquence, ils seront rétribués. Ajoutez une autre leçon à tirer de ce passage, c'est que ce qu'on a décrit ici comme tonnerre, comme éclair, comme pluie abondante qui s'écroule sur eux, eh ben c'est l'effet du Coran lorsqu'il leur parvient. C'est l'effet du Coran lorsqu'il leur parvient, l'effet dans leur cœur, l'effet sur à leur écoute, à leur vue. Ils n'aiment pas ce qu'ils reçoivent, comme l'éclair qui s'abat sur eux, comme le tonnerre qui perce leur tympan. Ils sont dans une peur, ils ont une peur bleue de ce qui les attend. Ils sont toujours dans la couardise et ils sont toujours effrayés. Ils sont toujours dans la lâcheté. Ils sont toujours effrayés. Ils arrivent à un point de peur qu'ils en arrivent à mettre leurs doigts. Ils arrivent à un point de peur qu'ils en arrivent à mettre leurs doigts dans leurs oreilles et à fermer les yeux, de peur de ceux qui pourraient s'abattre sur eux. Et il en est ainsi pour chaque personne qui est dans la mécréance. Lorsqu'elle est dans le shirk, lorsqu'elle reçoit les versets du tawhid, lorsqu'elle reçoit les versets qui viennent montrer la caducité du polythéisme, ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Leur cœur se resserre. Ils ont de l'aversion. Ils ont de la détestation pour ce qu'ils reçoivent et entendent. Naam. Les gens du shirk, les gens du soufisme, les gens qui vénèrent les saints et les tombeaux, lorsque tu leur mentionnes les versets du tawhid, innahu ma yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Celui qui associe Allah, le paradis lui est interdit. Sa demeure sera l'enfer. Et pour les injustes, nul secoureur. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On avancera tout ce qu'ils ont fait, on rendra cela poussière éparpillée. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Quand ils entendent ces versets, ils n'aiment pas. Leur cœur se resserre. Ils ont de l'aversion pour la révélation, pour le prophète alayhi salam qui est venu avec ce message, parce que ça vient démontrer que le chemin de leurs ancêtres était faux. Ça vient démontrer que l'adoration des saints est fausse. L'adoration des morts, des tombeaux est fausse. Il en est de même pour ceux qui détestent les compagnons, lorsqu'ils entendent les versets qui font leurs éloges. Lorsqu'ils voient que les sahabes radiallahu anhum sont les véridiques, sont les généreux. Lorsqu'ils voient qu'ils sont les fiers, ils sont les doux, eh bien, ils n'aiment pas. C'est comme le tonnerre, comme les éclairs qui s'abat sur eux, al-Rawafid, qabbahahumullah et leurs semblables, qui parlent sur les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, les méprisent, les insultent et touchent à leur honneur, à l'instar des ennemis de l'islam, de toute époque, à leur image. Et on pourrait mentionner ainsi beaucoup d'autres exemples. Leur cause est différente, mais leur agissement est le même. Parce qu'ils sont tous les héritiers d'une seule et même catégorie. El-Munafiqoun, les hypocrites. Les hypocrites. Tashabahat qulubuhum, fatashabahat a'maluhum. Leurs cœurs ont convergé, se sont ressemblés. Alors leurs œuvres sont semblables. Wala hawla wala quwwata illa billah. En somme, il nous faut, chers croyants, tirer profit de la révélation et savoir que c'est la parole du Seigneur savant et sage et que tout ce que renferme le Coran est pour nous un bien. Il faut le suivre. Et lorsqu'il y a une difficulté, il faut se soumettre à la volonté d'Allah religieuse et savoir que tout ce qu'Allah fait et décrète, c'est avec science et avec sagesse. Donc, se soumettre à Allah Azza wa Jal et rechercher ce qu'il y a derrière comme agrément d'Allah, pardon et paradis. La troisième parabole du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratul Baqarah, ou la troisième parabole qu'on étudie. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, et d'autres encore s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement pas inattentif à ce que vous faites. Voici une autre parabole du Coran relative à la dureté des cœurs. Après les passages sur Banu Israël, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la dureté du cœur. et nous cite cette parabole dans sourate Al-Baqarah. On nous dit ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Puis leurs cœurs se sont endurcis. Leurs cœurs sont devenus durs. Ils étaient durs, mais ils sont devenus encore plus durs. À un point tel que ni l'exhortation n'adoucit ce cœur, ni les signes d'Allah Azza wa Jal ne font se soumettre ces cœurs. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Le cœur, c'est un morceau de chair. Il n'a pas pour propriété la dureté. Mais la désobéissance d'Allah et le fait de se détourner de sa révélation amène le cœur à s'endurcir. Il devient plus dur, ou il devient aussi dur que la pierre, si ce n'est plus. Et Allah nous dit, après cela quoi? Leurs cœurs se sont endurcis. Après tous les bienfaits par lesquels Allah les a comblés, après tous les signes, comme lorsqu'il y a eu un vol et qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de prendre un bout de la vache morte et de toucher le mort, et ils ont vu là un miracle d'Allah Azza wa Jal, c'est que cela a fait revivre le mort. Puis il est venu informer du voleur. Puis il est venu informer du meurtrier. Il est venu informer du meurtrier. On a ordonné de couper un bout de la vache, de toucher avec ce bout le mort, et le mort s'est levé et a informé. Naam, et a informé de ce qui s'était passé ou du coupable. Malgré tous ces signes, ils se sont détournés. Ils ont démenti. Tous ces signes et tous ces bienfaits d'Allah, na'am, chez la personne normale, ont pour cause la douceur du cœur et donc sa soumission, n'est-ce pas? Mais là, on a ajouté en étonnement, en disant, min ba'di dhalik, après tout cela, c'est pour augmenter l'étonnement, augmenter le blâme. C'est-à-dire que la dureté s'est vraiment emparée et de toutes parts a scellé leur cœur. Puis Allah Azza wa Jal nous mentionne la parabole et l'objet de comparaison. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. Leurs cœurs sont comme des pierres. Sont comme des pierres. C'est-à-dire, écoutez bien, plus dur que le fer, plus dur que le plomb. Parce que le fer ou le plomb, si tu appliques dessus une flamme, si tu appliques dessus le feu, que se passe-t-il? Ça fond. Mais la pierre, elle ne fond pas. Leurs cœurs sont plus durs que tous ces métaux-là. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a comparés à quoi? À la pierre. Les a comparés à la pierre. Puis il nous dit, Aou ashaddu qaswa. Ou plus dur encore. Que veut dire plus dur encore? Ça veut dire la tanqusu qaswatuha an qaswati al-hijar. Ça veut dire que la dureté de leur cœur n'est pas moindre, n'est pas en dessous de celle de la dureté de la pierre. C'est ça le sens. Ça peut être plus, mais ça n'est pas moins. Ça n'est pas plus, mais ça n'est pas moins. Ça peut être plus, mais ça n'est pas moins. Ou ashaddu qaswa, ou plus dur encore, c'est pas ou dans le doute. C'est pas ou plutôt une correction. Non, c'est ou dans le sens, la dureté de leur cœur est telle la dureté des pierres. Ou ashaddu qaswa, elle ne descend pas en dessous de celle de la dureté des pierres. Mais il se peut qu'elle dépasse cette dureté. Il se peut qu'elle dépasse cette dureté. Et dans le cas contraire, elle ne descend pas en dessous de la dureté des pierres. Donc, Aou ici, ça n'a pas le sens de bel, comme a expliqué Ibn al-Qayyim et a repris Ibn Sa'di, rahimahumallah. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en quoi les pierres sont meilleures que leur cœur. Allah Azzawajal a mentionné sous trois points, en trois points, le mérite des pierres, malgré leur dureté, au-dessus de leur cœur. En nous disant, tabaraka wa ta'ala, yani en montrant, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre en quoi, parce que là c'est un objet d'étonnement. Alors on va nous citer explicitement en quoi les pierres sont meilleures que ces cœurs durs. Premièrement, wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Parmi les pierres, il y en a d'où jaillissent les ruisseaux. Il y en a d'où jaillissent les ruisseaux. Donc ça laisse passer. Ça peut se fendre, ça peut s'ouvrir, ça peut laisser un passage. Il peut y avoir une baraka. Deuxièmement, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau. Troisièmement, wa inna minha lama yahbitu min khashiyatillah. D'autres tombent du sommet de la montagne. Elles tombent, la pierre tombe par crainte d'Allah. Allahu Akbar. Par crainte d'Allah, la pierre tombe et déferle la montagne de son sommet. Donc ici, ils ont des cœurs tellement durs que les pierres ont dépassé leur baraka, ont dépassé leurs bienfaits et leurs mérites. Barakallahu fikum. Ibn Abbas radiallahu anhuma disait que si un rocher tombait au sol ou un bout de la montagne tombait et que l'ensemble ou bien qu'un ensemble de gens se réunissaient pour lever cette pierre ou ce rocher, ils ne réussiraient pas. Et malgré ça, par crainte d'Allah, cette pierre tombe du sommet de la montagne. Ce rocher déferle les tombes du sommet de la montagne par crainte d'Allah Azza wa Jal. Tafsir ibn Abi Hatim. Et cela me rappelle le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc. Naam, le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc, qu'Allah en préserve ses habitants et son gouverneur, et leur accorde la réussite. Subhanallah, la seule fois où je me suis rendu dans la montagne pour tenter d'aider en vain, subhanallah, il y avait un rocher, je n'avais jamais assisté à cela, il y avait un rocher, un bout de rocher, qui en apparence était déplaçable. Wallahi, près d'une, yani un peu moins d'une dizaine de frères se réunissaient et tentaient simplement de pousser ce bout de rocher pour libérer le sol afin de creuser et voir s'il y avait des rescapés. Par Allah, il a fallu peut-être une demi-heure simplement pour déplacer un peu le rocher. En s'aidant de barres de fer, en s'aidant de toutes choses, les gens se succédaient. Na'am, tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Ça, c'était un infime bout de ce rocher. Ne connaît la lourdeur de ces montagnes que celui qui les a créées, tabaraka wa ta'ala. Mujahid ibn Jabra, rahimahullah ta'ala, disait: il n'y a pas une pierre qui ne fait ce qui a été mentionné ici, si ce n'est par crainte d'Allah. Si ce n'est pas par crainte d'Allah. C'est-à-dire faire jaillir un ruisseau ou une source d'eau, se fendre et laisser sortir l'eau, ou tomber du sommet d'une montagne. Mujahid disait que cela ne se produit que par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela que nous indique le Coran. Aussi, la plus grande perte et la plus grande punition qu'Allah azza wa jalla inflige à son serviteur dans ce bas monde, c'est la dureté du cœur. Abu Ishaq Al-Fazari, rahimahullah, disait: Sami'tu Habibi Fudayl ibn Al-Iyad, ibn Iyad. J'ai entendu mon bien-aimé Fudayl ibn Iyad dire: Khamsatun min alamati shaqa. Cinq choses font partie des signes du malheur. Le premier qu'il a cité, Qaswatul Qalb, la dureté du cœur. Wajumudul Ayn, la sécheresse des yeux, c'est-à-dire qu'il ne pleure pas, il n'a pas un cœur doux, il ne pleure pas par crainte d'Allah. Waqillatul Haya, le peu de pudeur. Warahbatu fi dunya, le désir insatiable du bas monde. Watulul Amad, Amal, le fait de se voir une longue espérance de vie comme si on n'allait jamais mourir. Wakhamsatun min as-sa'ada. Et cinq choses font partie du bonheur. El yaqinu fil qalb, la certitude dans le cœur. Wal wara'u fid din, le fait de prendre ses précautions et se prémunir dans la religion, ne pas mettre sa religion en péril, s'éloigner des péchés, des choses douteuses. Wa zuhdu fid dunya, l'ascétisme face à ce bas monde, c'est-à-dire délaisser de ce bas monde ce qui ne nous est pas bénéfique pour l'au-delà. Wal haya wal ilm, la pudeur et la science. Apporté par Ibn Abi Dunya dans Az-Zuhd. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala disait une parole bouleversante, une parole poignante. Dans le Fawaid, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zam min qaswati al-qalb wal bu'd 'anillah. Allahu akbar. Cette parole mérite d'être traduite, notée et d'être propagée. Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zam. Il n'y a pas un serviteur qui a été frappé par une punition plus grande min qaswatil qalbi wal bu'di 'anillah que la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. Il n'y a pas une punition plus immense, plus gravissime que la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Il y a ici une grande menace. Car ça signifie, yani parmi les règles dans le domaine de la négation des attributs et des défauts concernant Allah, il y a le fait de dire qu'il n'y a pas de négation simple. Toute négation à l'égard d'Allah, des défauts, des imperfections, de toute similitude avec ses créatures, na'am, comprend l'affirmation de la perfection du contraire de ce qui a été nié. Donc lorsque tu dis qu'Allah n'est pas injuste, est-ce que tu te limites à ça dans ta croyance? Non, tu dois avoir la conviction ferme qu'Allah n'est pas injuste, car il a la perfection de la justice. Allah ne dort pas, ne somnole pas, parce qu'il a la perfection de la vie et de la qayyumiyya. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait être rendu impuissant parce qu'il a la perfection de la science et de l'omnipotence. Allah Azza wa Jalla n'a pas été enfanté. Pourquoi? Parce qu'il a la perfection de l'unicité et de la richesse. Tabaraka wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc là, comment appliquer cette règle? وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jalla n'est pas inattentif, n'est pas dans l'insouciance. Mais il a la perfection de la science. La perfection de la science. Il préserve parfaitement vos paroles, vos œuvres, les petites comme les grandes. Par conséquent, il vous rétribuera en fonction. جَزَاءً وِفَاقًا. Voici ici une menace. Voici ici un avertissement. Et parmi les choses les plus étonnantes, ikhwat al-iman, c'est que le Coran nous informe que, subhanallah, les jamadat, les montagnes, les pierres sont affectées par le rappel d'Allah. Et que certains cœurs, des fils de Adam, eux n'en sont pas affectés. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Les cieux et la terre ainsi que les montagnes, ont eu peur de la responsabilité.
À la fin de Surat al-Ahzab, Allah Azzawajal nous dit: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. On a proposé la responsabilité aux cieux, à la terre, aux montagnes. Ils ont refusé. La amana, c'est quoi? C'est la responsabilité.
C'est la responsabilité. Vous allez être testé. Si vous vous soumettez, vous avez l'agrément d'Allah et le paradis. Dans le cas contraire, l'éternité dans le châtiment.
Ils ont refusé cette amana. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. L'humain, lui, il l'a accepté. Parce qu'il est très ignorant. Il est très injuste. Très injuste, très ignorant. C'est inhérent à sa personne, sauf s'il répond à l'appel d'Allah, à l'appel de son messager. Sauf s'il va vers la révélation, il suit le chemin du Coran, le chemin de l'islam. Dans Surat al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله. Et c'est un mathal qu'on étudiera, incha'Allah ta'ala. Si on avait révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier. Tu l'aurais vu se fendre par crainte d'Allah. Allahu Akbar. Mais le cœur de certains serviteurs d'Allah, le cœur de certains fils de Adam, n'a pas fait ce que les Jamadat, ce que les montagnes, ce que les cieux et autres ont fait. Donc, on a fait cette belle comparaison entre le cœur dur de certains serviteurs et la dureté de la pierre. Et la dureté de la pierre. Parce que le cœur n'a pas pour propriété d'être dur à la base. Dans son état, c'est de la chair. Alors on l'a comparé à une chose dont tout le monde connaît sa dureté. Et ça fait partie de la splendeur des mathal du Coran.
Pour finir, Khwat al-Iman, on assiste à notre époque à un phénomène qui pousse à l'éloignement de l'adoration d'Allah, à l'éloignement de la lecture du Coran, à l'éloignement des mosquées, à l'éloignement des larmes qui coulent par crainte d'Allah azzawajal et peur de le rencontrer. Ce phénomène, c'est quoi? C'est la dureté des cœurs. C'est la dureté des cœurs. Malgré tous les bienfaits qu'Allah azzawajal nous donne et les facilités que nous avons à nous instruire, à adorer notre Seigneur, les cœurs se sont endurcis. Et ces cœurs-là, Allah Azza wa Jal les blâme et leur adresse le malheur. فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Malheur au cœur dur face au rappel d'Allah. Ce sont des cœurs qui ne s'adoucissent pas par le livre, qui ne se rappellent pas les versets d'Allah, qui n'obtiennent pas le repos et la sérénité à travers le rappel. Ils sont plutôt éloignés de leur Seigneur. Ils convergent vers autre chose. Ceux-là ont le malheur. Ceux-là sont dans le mal, comme a expliqué Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala. Ikhwat al-Iman, la dureté du cœur a des causes. Premièrement, la répétition des péchés. Dans Surat al-Ma'id, Allah Azza wa Jal nous dit: فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. À cause des péchés, à cause de ne pas tenir les engagements et le pacte, Allah Azza wa Jalla les a maudits. Et il a rendu leur cœur dur. Dans Surat al-Mutaffifi, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Azza wa Jalla a scellé leur cœur à cause de ce qu'ils faisaient. Deuxièmement, l'insouciance. L'insouciance face au rappel d'Allah, à l'obéissance d'Allah, à ce qui nous attend. Troisièmement, le fait d'oublier la mort. Le fait d'oublier cette réalité, cette finalité qui nous touchera tous. Naam. Le fait d'exagérer dans les choses permises, la nourriture, le sommeil, le rire, les plaisanteries, et il y a beaucoup d'autres causes encore. Et il y a beaucoup d'autres causes encore, comme le fait de ne pas avoir de pitié envers les enfants ou envers les faibles. Naam, comme a dit le prophète alayhi salat wa salam au bédouin qui a vu le prophète alayhi salam embrasser Naam, un enfant, il lui a dit, vous embrassez les enfants. Nous ne les embrasserons pas. Le prophète alayhi salam lui a dit, que puis-je posséder pour toi si Allah a enlevé la pitié de ton cœur? Hein? Donc avoir de la pitié pour les enfants, pour les orphelins, pour les gens dans la difficulté, tout cela, et le fait de ne pas en avoir, tout cela fait partie des causes de la dureté du cœur. Naam. Quant au fait de beaucoup lire le Coran, le méditer, ça amène la douceur du cœur. Le fait de connaître Allah, d'apprendre, ça enlève la dureté du cœur. Ça amène, naam, ça soigne la dureté du cœur. Le rappel de la mort, ça soigne la dureté du cœur. Les assises pieuses, les bonnes fréquentations, ça soigne la dureté du cœur. Salat al-janaza, la visite des cimetières, ça soigne la dureté du cœur. Es-sadaqat, caresser la tête de l'orphelin, ça soigne la dureté du cœur. Et beaucoup d'autres causes encore, le fait de faire le bien, le fait de délaisser le mal, le fait d'embrasser ses parents, le fait d'être humble envers les croyants. Hada wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم عنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك المعافاتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافات في الدنيا والآخرة اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا وسددنا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أولادنا واهديهم يا رب العالمين واحفظهم بحفظك يا رب العالمين اللهم احفظهم اللهم احفظهم يا حفيظ اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول اللهم إنا نعوذ بك من القلة والفقر والذلة ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.